matin, Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média, justement au menu tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui de la BD et de la gastronomie avec deux institutions, chacun ou chacune dans son genre, le fooding et Franquin, le génial papa de Gaston Lagaffe. Et comme nous sommes vendredi, il y aura aussi l'actualité et les coulisses du sport business avec Sacha Nokovic du journal L'Équipe. Grosse actu, vous en doutez, à deux jours du démarrage de la Coupe du Monde, dont Europe 1 est la radio officielle. Nous sommes ensemble pour deux heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie de l'émission qui vous manque ou que vous voulez réécouter sur europe1.fr. Notre infomédia va se pencher sur 40 ans de vie politique sous l'angle particulier de l'éclairage médiatique. Nous serons avec une immense voix du journalisme politique, Catherine Ney. Les fameuses éditions bouquins publient Le Grand Théâtre du Pouvoir. C'est sous-titré 40 ans de politique française, une somme qui rassemble 4 de ses ouvrages, de Pompidou aux réseaux sociaux, de l'affaire Markovitch au lynchage en ligne. En deuxième heure, dans la partie culture, nous serons avec le comédien Charles Berling. Il est sur la scène du Théâtre du Rond-Point pour deux amis, avec Stanislas Nordet, pièce de Pascal Rambert, écrite spécialement, spécifiquement pour eux deux. Attention les yeux, attention les oreilles, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Louise, au sommaire de votre journal des médias.
La quasi-totalité d'une rédaction d'un site internet démissionne. Il pourrait y avoir une sanction contre C8 suite à la vive altercation entre Cyril Hanouna et le député Louis Boyard. La condamnation de Valeurs Actuelles a été confirmée en appel. Et puis de nombreuses petites infos télé, c'est en fin de journal.
Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
Ils ont regardé la suite de la série I3P sur TF1, 2 370 000 téléspectateurs. Devant cette série avec Marc Lavoine, un 13% de part d'audience. C'est un petit score pour la série qui baisse par rapport à sa première diffusion. Pour la première diffusion, elle avait attiré 3 300 000. En fait, il y a pile 1 million de moins. Pardon, je fais mes calculs en même temps. Il y a pile, vous savez, je les ai à 9h02 les
Bien
audiences.
Sûr, ça vient
donc,
de tomber, c'est tout chaud sorti du four.
Il y a pile 1 million de téléspectateurs en moins par rapport à la première diffusion. Deuxième, c'est Envoyé spécial, très en forme hier, 2 160 000 téléspectateurs, 11,8% de part d'audience. C'est même un record de saison et record pour 2022. Envoyé spécial qui fait une bonne entrée. Ça fait un mois que l'émission est en forme. Troisième, c'est Lego Master. Ah, pardon! Premier, c'était France 3. Je suis désolée.
Ouais.
On recommence. Premier, France 3, avec un téléfilm, La Malédiction du Volcan, 3 millions de téléspectateurs, 15,7% de part d'audience. Ensuite, c'est donc TF1. Et troisième, Envoyé spécial. À noter que sur M6, Lego Master est faible. 1 400 000 téléspectateurs hier soir, 7,9% de part d'audience seulement. C'est donc le classement France 3, TF1, France 2.
Europe 1, le journal des médias.
On commence ce journal avec une information. Cette information, la rédaction du site internet GameCult démissionne.
Oui, la quasi-intégralité de cette rédaction spécialisée dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que ce sont les rédacteurs, les journalistes, reporters d'images, les pigistes aussi qui partent. Ils partent car le site vient de changer de propriétaire il y a un mois. Il appartient désormais à un grand groupe, ReWorld Media. Alors les journalistes ont décidé de prendre ce qu'on appelle une clause de cession. C'est un dispositif qui est prévu en cas de changement de propriétaire, qui permet aux journalistes de partir dans de bonnes conditions financières. La rédaction de GameCult a donc annoncé hier à ses lecteurs sa décision via un communiqué, un article sur son site et dans une émission animée en direct, disponible sur Twitch et YouTube.
N'imaginez pas d'ailleurs qu'on part sur un coup de tête ou simplement oui, voilà. Sans avoir essayé un petit peu de voir ce qui était possible de faire. On a envisagé beaucoup de scénarios, beaucoup d'alternatives. On a quand même assez vite compris qu'elle serait difficile à mener. On y viendra peut-être plus tard. Mais notre premier réflexe a été aussi d'envisager autre chose, que ce soit pour l'équipe ou pour GameCult. D'ailleurs, au sujet de l'équipe, on précise que cette décision, si elle est unanime, elle a quand même été mûrement réfléchie par tout un chacun.
Et les deux rédacteurs en chef ont expliqué que parmi les raisons qui ont conduit au départ de l'équipe, il y avait notamment une forme de fatigue, d'usure de devoir lutter pour garder une indépendance éditoriale. Un article sur le site internet précise d'ailleurs, la déontologie journalistique se heurte désormais trop souvent aux exigences de Google, mais aussi des annonceurs dont la volonté est de faire disparaître la ligne entre publicité et information. Elle s'affirme de plus en plus lourdement. Il faut savoir que GameCult, c'est un site connu pour revendiquer du pur journalisme, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains sites consacrés aux jeux vidéo. Ce qui veut dire que Gamekult s'attache à écrire des articles sans soucier de se mettre à dos ou non la puissante industrie du jeu vidéo. Alors pour conserver son indépendance, le site avait beau déjà être attaché à un grand groupe Unify, il était accessible sur abonnement et revendique d'ailleurs un grand nombre d'abonnés, hein, 12 000. Ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que l'équipe de Gamekult a peur que ce rachat signifie un changement de ligne éditoriale. Or, elle y est très attachée. C'est la même depuis la création du site il y a 22 ans.
Bouger une ligne éditoriale au gré des vents et des modes et des machins, c'est beaucoup plus facile que d'en tenir une sur 20 ans. Et je pense qu'en vrai, avoir réussi à tenir les principes et les valeurs, comme je disais tout à l'heure, qui étaient au cœur de GK pendant 20 ans, je pense que pour moi, c'est ça la plus grande difficulté. C'est celle-là qui nous a tenu à cœur, moi avec ma toute petite période, mais toi surtout avec tes 20 ans, de ne jamais perdre de vue ces principes-là et ces enjeux-là et cette exigence.
À noter que le site ne va pas disparaître pour autant, hein, déjà parce que l'équipe actuelle reste en place jusqu'au 7 décembre, et puis des recrutements sont en cours pour la remplacer.
L'ARCOM ouvre la voie à une procédure de sanction contre la chaîne C8.
Oui, suite à la vive altercation entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, l'ARCOM a été saisie par le groupe LFI et par des téléspectateurs, et donc elle vient d'annoncer dans un communiqué qu'elle estimait que cette séquence pouvait mener à une sanction. Mais comme C8 a déjà reçu plusieurs mises en demeure par l'ARCOM, c'est en fait un rapporteur indépendant qui doit se charger d'instruire le dossier pour que l'ARCOM ne soit pas accusé d'être partial. Ce rapporteur indépendant, membre du Conseil d'État, va donc mener une instruction et faire ensuite un rapport à l'ARCOM. Alors il peut suggérer qu'il y ait sanction ou non. Ensuite, c'est à l'ARCOM quand même de décider si elle suit cette recommandation. Les sanctions peuvent être par exemple une amende ou la suspension du programme, mais ça, c'est beaucoup plus rare.
Dans l'actualité également, la condamnation de Valeurs Actuelles confirmée en appel.
Oui, le directeur Éric Monjalou et un journaliste du magazine Laurent Julien ont été condamnés pour injure publique à caractère raciste contre la députée LFI Danielle Obono, condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et à 5 000 euros de dommages et intérêts pour la députée. 1 euro symbolique aussi pour les associations qui s'étaient constituées partie civile. Ce sont des peines moins importante qu'en première instance. Geoffroy Lejeune, lui, a d'ailleurs été relaxé. Il est directeur de la rédaction. Valeurs Actuelles avait publié en 2020 un article intitulé « Obono l'Africaine » où il dépeignait la députée en esclave.
Et on continue ce journal avec quelques petites infos médias en bref. C'est ce soir la fin de la plus longue série française, Plus belle la vie.
Mais oui, c'est d'ailleurs la une du journal Libération ce matin. Le feuilleton quotidien aura donc duré 18 ans, 4665 épisodes. Et les fans vont donc avoir le droit à une fin digne de ce nom, avec deux épisodes diffusés à 20h15, puis une soirée spéciale toujours sur France 3, un prime avec les ultimes rebondissements et puis un documentaire.
Quentin Tarantino va réaliser une série.
8 épisodes qu'il va tourner en 2023. Et on n'en sait pas plus, il a simplement
super
dévoilé
info.
Cette information. Mais c'est quand même une information, alors qu'il est en pleine promotion de son livre. Il est souvent secret, en fait,
il
Quentin Tarantino.
Dire un mot, quand même.
Mais il est très secret, c'est un garçon secret. Comme si je le connaissais.
Ouais.
Le réalisateur a déjà travaillé pour la télévision. Il a réalisé un épisode de la série Urgence. Alors ça date un peu, c'était en 95. Et plus récemment, mais quand même en 2005, il a réalisé aussi la fin de la saison 5 des Experts.
Un Energy Music Awards d'honneur remis au chanteur Renaud ce soir.
Oui, et donc il sera présent à Cannes, lui qui est si discret depuis plusieurs années. Alors sa dernière apparition à la télévision est quand même relativement récente. Elle date de mai dernier lorsque France 2 avait consacré une soirée spéciale au chanteur pour son anniversaire. TF1 justifie ce prix d'honneur avec des chiffres impressionnants. 45 ans de carrière, 5 victoires de la musique, 23 millions d'albums vendus en France. Et la chaîne ajoute, Renaud est sans conteste un artiste hors du commun, un immense poète s'adressant à toutes les générations.
Un nouveau projet pour Muriel Robin sur TF1.
Elle vient de révéler à Télé 7 Jours qu'elle allait jouer dans un téléfilm sur l'inceste. Elle y incarnera la mère de l'acteur Guillaume Labbé, dont le personnage sera accusé d'abus sexuels sur son fils. Elle précise au magazine, c'est très fort et bien écrit, le téléfilm va amener un débat, c'est ce que je trouve important. Mon travail est d'aller de l'autre côté, que ce soit sur scène ou sur un écran, je veux tenter d'éveiller les consciences.
Big Little Lies, vous aviez adoré la série, et il n'y aura pas de saison 3.
C'est tellement triste. Nicole Kidman, elle parlait pourtant régulièrement de son envie de faire une suite, envie partagée par les autres comédiennes, donc on y croit. Nous les fans, mais l'une d'entre elles, Zoé Kravitz, vient de révéler au magazine GQ qu'il n'y aurait pas de saison 3 finalement, car le réalisateur de la série, Jean-Marc Vallée, est décédé il y a quelques mois, ce qui leur a brisé le cœur. L'actrice explique, il était vraiment le visionnaire de cette série, donc malheureusement c'est fini. Et c'est vrai que une des raisons qui explique le succès de cette série, c'est vraiment la réalisation.
Merci beaucoup, le journal lui aussi il est fini, mais il revient lundi. Merci Louise. Toutes ces infos à retrouver sur notre newsletter média, c'est gratuit sur europe1.fr. Bon week-end, à lundi.
Bon week-end.
Dans un instant, notre info média du jour avec notre camarade Catherine, on parle de son livre Le Grand Théâtre de Pouvoir, qui rassemble 4 ouvrages et qui raconte 40 années de vie politique. Nous, on va s'intéresser particulièrement à l'éclairage médiatique. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Philippe.
On vous réentend, vous étiez ce matin à l'antenne sur Europe, vous êtes une figure de journalisme politique, l'une des grandes voix d'Europe 1. Vous êtes également autrice de livres politiques qui ont fait date et justement, les fameuses éditions bouquins publient une somme. Ça s'appelle Le Grand Théâtre du Pouvoir, c'est sous-titré 40 ans de vie politique française et ce livre rassemble 4 de vos ouvrages. La double méprise, c'est en 81, Le Noir et le Rouge, faut pas se tromper avec Stendhal, c'est en 84, Le Dauphin et le Régent, 94 et Un Pouvoir nommé Désir. C'était en 2007. Auparavant, ces 4 livres publiés chez Grasset. Là, ils sont tous réunis sous cette couverture chez Bouquin, la collection. À l'automne dernier, on vous avait reçu, Catherine, pour le 2e tome de vos souvenirs. Vos mémoires, 150 000 exemplaires vendus. Il y a une suite, tu le sais bien, Le Temps passe, très joli titre. Ça couvrait la période 95-2017 de l'élection de Jacques Chirac à celle d'Emmanuel Macron. Mais là, je vais commencer par Le Grand Théâtre du Pouvoir. Votre récit commence en juin 69. Pompidou est à l'Élysée. Dans le gouvernement, il y a 2 ministres qui domine le paysage politique pendant plusieurs décennies. Deux styles qui s'opposent, Chirac, Giscard d'Estaing, et vous racontez en tout, quand on lit tout ça, c'est la saga de 4 présidents, évidemment de tout le monde autour, ce théâtre, Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy, Hollande. Vous écrivez dans la préface, pour devenir président, tous le savaient, ils devaient faire leur classe, tous ont été plusieurs fois ministres et même premier ministre pour Jacques Chirac, ils ont été maires, conseillers généraux, président de conseil général, ils ont labouré les territoires, comme on dit aujourd'hui, ils ont tenu des réunions dans toutes les villes de France pour se faire connaître. Je dis ça parce qu'on a l'impression que c'est fini.
Oui, les 4 présidents que je traite dans mon livre, qui sont Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. D'abord, ils ont une ambition présidentielle très tôt. Et ils ont su que ce serait leur chemin de vie et que ça allait être un chemin à la fois avec des ronces, des fleurs, que ça serait très difficile. Mais un laps de temps pendant lequel les Français auront appris à les connaître, à les jauger, à les juger et même à voter pour eux en se disant ils le méritent, ils ont assez souffert, ils l'ont voulu, on le leur donne. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont été des grands présidents, mais ils avaient créé ce lien avec les Français parce qu'ils auraient, comme j'ai dit, labouré le terrain. Or il y a eu une rupture au moment de l'arrivée de François Hollande, parce que avant François Hollande, enfin si Dominique Strauss-Kahn n'avait pas eu son incident à New York, eh bien, personne ne songeait à la candidature de François Hollande, qui lui-même n'avait jamais laissé entendre qu'il serait... Pour les journalistes, c'était un commentateur formidable, celui qu'on appelait pour avoir une bonne phrase, pour pimenter un papier. Mais donc, on ne se disait pas, ni même, on se disait, il n'a peut-être pas l'envergure même d'être président de la République. Et donc, il a été élu, mais il n'a pas été réélu. Et Emmanuel Macron, n'en parlons pas.
On va en parler peut-être plus tard. En 40 ans, il y a une loi très importante, la loi sur le cumul des mandats. Alors j'explique aux plus jeunes, désormais il est interdit d'être ministre, député, maire, en même temps conseiller général, il faut choisir 2 mandats. Et vous écrivez que les présidents d'autrefois devaient saisir et comprendre les aspirations du peuple français et de plus en plus de voix se font entendre qui disent que l'interdiction du cumul des mandats était une fausse bonne idée. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah oui, oui, ça a cassé quelque chose, ça a cassé un écosystème, vous savez, parce que d'abord, là, vous voyez, le Parlement a été renouvelé à 93% depuis, ça a commencé sous François Hollande, mais avec les deux législatives sous le président Macron. Là, maintenant, c'est un Parlement avec des gens nouveaux qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas fait leur classe, qui n'existent pas. Et il n'y a pas au milieu d'eux quelques barons qui sont des référents sur lesquels ils peuvent s'appuyer, qui peuvent servir de maître, et puis qui amènent ce qu'ils connaissent. Vous savez, un député-maire, c'est quelqu'un qui connaît le terrain. Les grands-maires des grandes villes, même, étaient dans leur région quelquefois des arbitres entre quand il y avait des conflits entre les élus.
Et des vecteurs. On l'a vu au moment des gilets jaunes. Les gens n'avait plus d'interlocuteur.
Mais voilà, parce que au moment où sont arrivés les gilets jaunes, eh bien, les députés macronistes, les nouveaux, mais bon, on savait où était leur permanence. On allait taguer les murs, brûler leur voiture éventuellement. Mais comme ils n'avaient pas d'interlocuteur et que ces députés ne les connaissaient pas, ne pouvaient pas servir d'amortisseur pour le pouvoir, eh bien, ils n'avaient qu'une idée, c'est venir à Paris se plaindre pour voir et s'adresser au roi pour lui couper la tête. Enfin, c'était très violent.
Le roi, c'était et c'est Emmanuel Macron. Il était à l'Élysée, son premier mandat électoral. Et quelque chose de neuf, il n'a jamais fait partie d'un parti politique auparavant. Il n'avait jamais été élu. Est-ce que selon vous, c'est une exception ou est-ce que cela va devenir la norme?
Je sais pas. Ben, pour l'instant, c'est une exception. Il a été élu sur un élan en promettant qu'il prendrait ce qui était bon à droite, bon à gauche. Et donc, il a été élu sur cet élan-là il y a 5 ans. Mais le plus extraordinaire, c'est d'avoir été réélu cette année, alors qu'il n'a pas fait campagne pour la présidentielle, qu'il n'a pas fait campagne pour les législatives, qu'il n'avait pas de thème, sauf, il a dit, la retraite à 65 ans. Et après, il a demandé aux Français une majorité, mais sur un tarmac, la veille du premier tour. Donc, il lui est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de majorité, que les Français ont inventé la proportionnelle sans que la proportionnelle ait été créée. Et c'est très difficile de gouverner aujourd'hui.
Et tout était hors norme, puisqu'il y a eu les gilets jaunes, on l'a dit, puis il y a eu le Covid et la guerre en Ukraine.
Ah oui, c'est un chat noir, presque, oui.
Je vais remonter dans vos souvenirs, Catherine Ney, vous citez le président Pompidou, ça ne nous rajeunit pas. Pompidou disait, les Français, il faut leur faire du théâtre. On est ici une émission média, est-ce que ça a changé?
Il faut leur faire du théâtre, et c'était pas faire le rigolo et le zigoto. Non, c'est lui qui était un fin lettré. Faire du théâtre, c'est raconter aux Français le roman national, où on les guide, d'où on vient. Or, comme il connaissait à la fois l'histoire et qu'il avait un projet, Pompidou, c'était, il pensait que si la France voulait porter son message universel à la De Gaulle, elle ne pouvait le faire que si elle était une puissance économique qui était respectée et qui avait une industrie forte. Donc, lui, il disait aux Français, pour moi, la plus grande révolution, c'est pas de faire les 35 heures, c'est de dire on donne un bon métier avec des bons salaires et non pas des subventions qui coûtent cher à l'État. Mmh. Et ça, c'était pour lui le plus révolutionnaire. Et aujourd'hui, on se dit, mais quel visionnaire! C'est bien sûr que c'était ça qu'il fallait faire. Donc c'était ça, faire du théâtre.
Alors, on va comprendre au fur et à mesure de cet entretien si vous pensez que la politique a changé ou si rien ne change sous le soleil, parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Il s'est passé beaucoup de choses en 40 ans, l'irruption des chaînes continues, l'invention des réseaux sociaux, je ne vous apprends rien. Ça a évidemment changé la manière de travailler, de faire de la politique. Je voudrais dire un mot de l'affaire de l'Observatoire. Je raconte pour les plus jeunes, c'est en 59, Mitterrand se prête au jeu d'un faux attentat contre lui avec toute une mise en scène, sa voiture est mitraillée, réussit à s'échapper. Finalement, on réalise que le type qui l'a mitraillé, c'était un complice ou des complices. Pourquoi ? Pour se faire passer pour une victime et montrer que c'est lui qui incarnait la gauche et non pas Mendès France. Pourquoi j'en parle? Parce que cette séquence funeste a été oubliée. Mitterrand a réussi à se faire élire à l'Élysée en 81. Est-ce que tout ceci serait pensable aujourd'hui avec les réseaux sociaux?
Mais voilà, Mitterrand disait toujours, les Français sont un peuple sans mémoire. Et c'est vrai qu'ils oublient très vite. D'ailleurs, un président qui a été battu et vilipendé, mais on le voit dans la rue 6 mois après, on l'applaudit. Enfin, donc, il y a ça. Mais il y a surtout, quand il y a ces événements majeurs, et là, qui étaient se prêter à un faux attentat, les mensonges devant l'opinion, mais comme il n'y avait pas de tweets, de réseaux sociaux pour le rappeler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'oubli est impossible. C'est-à-dire, tout vous revient dans la figure. Vos déclarations les plus anciennes, ça revient toujours. Donc, c'est quelque chose qui est très oppressant.
Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Parce que j'y pense, il y a en ce moment un débat sur la corrida. Aymeric Caron de LFI voulait faire interdire la corrida et sont ressorties des déclarations d'il y a quelques années de Jean-Luc Mélenchon, de son propre parti, qui était favorable aux courses de taureaux.
Mais oui, mais
est-ce que c'est pas une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Quel est votre point de vue?
Je pense que
posé les questions différemment. Est-ce qu'il doit y avoir, selon vous, un droit à l'oubli en politique?
Moi, je crois aussi. Parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de droit à l'oubli, c'est qu'aussi on peut changer, on peut évoluer. Et ce n'est pas parce qu'on a pensé ou dit quelque chose il y a 40 ans qu'on pense la même chose aujourd'hui. Regardez les gens qui étaient contre le mariage pour tous et qui aujourd'hui l'admettent. Ben, on ne va pas leur rappeler toute leur vie qu'ils étaient contre il y a 15 ans, alors que maintenant, ben, c'est une chose qui est admise de gré ou de force, d'ailleurs pour certains, mais qui est admise. Donc on ne peut pas sans arrêt. Autrement, il n'y a plus de vie. Si vous ne faites pas, c'est comme le pardon, c'est comme la justice. Il y a un moment où il faut pardonner, vous voyez. Donc, Non, moi je trouve que c'est très dangereux, quoi, les réseaux sociaux en gros.
Ça me rappelle une phrase de Georges Marchais, je la cite de mémoire, qui disait « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai toujours dit ça ». Le grand théâtre du pouvoir, Catherine Ney avec nous, 40 ans de vie politique française. On a raconté les premières années, on va arriver au 21e siècle. A tout de suite sur Europe 1 en Culture Média.
Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Catherine Ney, quatre ouvrages importants politiques. Elle a signé, c'était chez Grasset, La double méprise, Le noir et le rouge, Le dauphin et le régent, Un pouvoir nommé désir. Elle s'attache à la vie et à l'ambiance politique de quatre présidents. C'est rassemblé sous 40 ans de vie politique française aux éditions Bouquin. Vous avez vu des choses assez extraordinaires en tant que journaliste politique que peu ont vu. Vous les racontez. Exemple, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Il vous reçoit un jour au ministère Place Beauvau, dans le jardin, dans une drôle de tenue.
Ben oui, il était torse nu, il faisait chaud, mais enfin c'était, voilà, c'est une ligne dans mon livre, mais c'était un moment où Cécilia était partie, où il était peut-être un peu perturbé, et voilà.
Mais ce qui m'impressionne, c'est ça, c'est, on n'imagine pas arriver, débarquer, voir le ministre de l'Intérieur, quel que soit le ministre de l'Intérieur, qui vous reçoive torse nu, et Charles Pasqua également, lui c'était encore mieux.
Ah non, il n'était pas torse nu lui, non, vous racontez, ah ben oui, il m'avait reçu un dimanche, vous avez été le voir, il était en jet là-bas, assis devant son bureau, avec un whisky et des coupelles d'amandes, et il écoutait Nabucco de Verdi, qui était son œuvre préférée, et dans son bureau, il y avait deux baffles qui étaient grandes comme des armoires, et il écoutait ça, il était en extase, et il me disait que c'était sa détente du dimanche matin.
Oui. Il était ministre de l'Intérieur.
Et ministre
c'est pour
l'intérieur.
Ça que je le cite, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est dans le cadre de ses fonctions, sinon voilà. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. C'est l'arrivée de la gauche au pouvoir qui a décrispé la politique.
Qui a décrispé la politique, on est passé de l'ombre à la lumière, disait François Mitterrand. Mais ça a changé beaucoup de choses, ça a fait d'abord émerger une classe nouvelle, tout à l'Assemblée. Vous voyez, à une époque où on ne portait pas la barbe, il y avait tous ces élus qui étaient d'anciens PEGC ou universitaires. C'était la marque du monde enseignant, vous voyez, la barbe à ce moment-là.
Les barbus de l'Élysée qui avaient le bouc.
Voilà, mais enfin, Mitterrand, il a amené, oui, ça a été un grand tournant dans la vie française.
Et je me souviens de Jack Lang qui avait fait scandale quand il avait déboulé en col Mao à l'Assemblée nationale. J'aimerais bien votre avis sur les polémiques récentes, sur les tenues vestimentaires des députés France Insoumise, sans cravate ou comme François Ruffin avec un maillot de foot. Il y a un député, je crois que c'est Éric Ciotti, qui veut imposer le port de la cravate pour les hommes. Ça change quelque chose ou rien du tout? Ou ce qui compte à l'Assemblée nationale, ce sont les mots et les idées qui s'échangent?
Non, mais c'est vrai qu'il faut représenter le peuple, mais pas forcément de lui ressembler, c'est pas parce que vous êtes... c'était François Hollande qui trouvait qu'il fallait être normal et être comme le voisin du palier. Eh bien non, quand on est élu, qu'on représente le peuple, même celui qui se balade en tongs sur les marchés, vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme lui. Non, au contraire, moi je crois que si on respecte l'électeur, eh bien on s'habille et on se tient comme il faut on peut vociférer, mais déjà si on est mieux habillé, d'ailleurs ça a sûrement... le débraillé amène le débraillé, vous voyez, et puis en plus il faut être compétent pour savoir qu'on est incompétent. Tout ça, mais en tous les cas, quand vous me parlez de Jack Lang, c'est vrai qu'il avait une veste sans col Mao, mais c'était chic. C'était distinct. Enfin, c'était, voilà, on aimait pas, mais c'était pas du débraillé.
Puisque vous parlez de François Hollande, je vous cite, vous n'êtes pas tendre, mais en même temps, c'est savoureux. Le nouveau président, François Hollande, a installé un style inédit, écrivez-vous, la normalitude. Croyant que, pour séduire les Français, il devait ressembler à Monsieur Tout-le-Monde, il n'habitait pas l'Élysée, il continuait à vivre avec sa compagne Valérie Trierweiler dans leur appartement du 15e arrondissement, se laissant photographier le samedi, faisant ses courses dans son quartier, attendant chez le boucher comme n'importe quel quidam, sortant un sac plastique à la main, tirant de l'argent au distributeur du coin. Quel contresens? En quoi est-ce un contresens?
Mais parce que les Français n'ont pas du tout envie d'avoir un président qui leur ressemble. Ils veulent une certaine majesté. Ce sont des royalistes, les Français. D'ailleurs, ils veulent pour ça qu'ils veulent lui couper la tête. Non. Et on voit bien que François Hollande n'était pas du tout à l'aise dans ce rôle. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal à entrer dans cette fonction. Il s'est fait photographier. Vous voyez, la photo officielle, il est à l'Élysée, mais l'Élysée est dans le lointain. Il est au fond du jardin, vous voyez, avec la silhouette coupée en deux. Et on voit
photo
qu'il a...
Photo de Pardon, si je me souviens bien, ou de Bettinarin, je ne me souviens plus.
Non, de Pardon.
De Pardon.
Et Bettinarin, c'était pour Jacques Chirac. Et on voit bien que le palais dans la lumière, lui est dans l'ombre. Et bien, ça dit tout. Ça veut dire qu'il n'était pas pressé d'y entrer, d'y arriver, vous voyez. Et d'ailleurs, il disait au début, quand j'arrive dans le bureau, je frappe à la porte, parce qu'il n'était pas dans... Il a eu du mal, oui.
On est une émission média, on le sait, François Hollande a décidé de ne pas se représenter, et vous reprenez les mots de son Premier ministre Manuel Valls, un suicide. On revient aux médias, vous dites, ses confidences aux deux journalistes du Monde, Davet et L'Homme, ont ulcéré les socialistes. Pendant 5 ans, il s'était livré à eux, des centaines d'heures d'entretiens, de dîners privés, de paroles sans filtre. C'est devenu un livre. Un président ne devrait pas dire ça, c'est le titre du livre. Il s'est laissé piéger. Les deux journalistes lui ont porté un coup fatal. Quel est le rapport entre la politique et la presse? Où se situe la limite selon vous? Je vous pose la question parce que vous êtes journaliste politique et ce qui vous intéresse, c'est que vos interlocuteurs vous parlent le plus possible.
Oui, mais de là à passer mes soirées avec un président, l'inviter chez moi pour lui sortir des choses, lui faire dire des choses dans l'intimité de... et pour après ne pas mettre de filtre et lui dire « ces paroles, vous les avez dites, elles sont à nous et pas à vous », moi, je trouvais qu'il y avait un abus, parce qu'un président, quand même, doit contrôler. Il leur a fait trop confiance. Et moi, je crois qu'il a fait confiance à ces deux journalistes, parce que, comme ils avaient quand même été très... ils n'avaient cessé d'attaquer Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, leurs articles dans Le Monde étaient redoutés par tout le monde sarkozyste. Bon. Et là, je pense que François Hollande leur a fait confiance, parce que, justement, ils étaient anti-Sarkozy, c'est que lui-même l'était, et qu'il s'est dit, on va se rejoindre, leur ferai confiance.
L'ennemi de mon ennemi sera mon ami.
Voilà.
Il s'est dit ça.
Voilà, il s'est dit ça, et ça, c'était une erreur parce qu'il a été piégé. C'est vrai qu'il a trop parlé.
Autre chose qui a beaucoup changé au cours de votre carrière, la profession politique, mais également la profession journalistique, s'est beaucoup, beaucoup féminisée.
Oui.
On ne va pas s'en plaindre. Enfin, oui. J'aimerais avoir votre avis. Vous, Michel Cotta, Christine Claire avaient été des pionnières. Si on écoute les matinales des radios, ce ne sont quasiment plus que des femmes qui assure les interviews politiques, Sonia Mabrouk ici chez nous sur Europe 1, Apolline de Malherbe sur RMC, Léa Salamé sur France Inter, Alba Ventura sur RTL, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ben, ça m'inspire qu'en tous les cas dans la presse, mais y compris dans la politique, peu à peu les femmes prennent le pouvoir. Parce que
la politique c'est différent, il y a des quotas.
Il y a des quotas,
presse, il n'y a pas de quotas.
Il n'y a pas de quotas, mais ce qui est intéressant, c'est dans la presse, tant mieux, parce que longtemps, elles étaient minoritaires et elles font très bien leur métier, et c'est très bien. Et je pense que ça amène quelque chose dans les rédactions qui est peut-être, enfin, je suppose, enfin, moi, je vois ça à Europe, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres rédactions, mais ça amène, moi, je trouve que cette mixité, que les femmes puissent avoir des postes aussi prestigieux que de faire l'interview, eh bien, il y a un partage des tâches qui est d'ailleurs très bien accepté par les hommes, et c'est très bien. Mais moi, je dirais qu'en politique, aussi, on voit qu'il y a moins de femmes, mais on a l'impression qu'elles seules existent en ce moment. Vous voyez, celles qui font du bruit à l'Assemblée, c'est des femmes. Vous voyez, je veux dire, Sandrine Rousseau, elle a effacé son groupe, il n'y a qu'elle. Des Mathilde Panot et toutes les Clémentine Autain, je veux dire, elles font un peu la loi dans leur propre groupe. Donc, ce sont des femmes qui, non seulement se sont imposées, sont des guerrières et donnent le tempo au Parlement.
Et je rappelle qu'il y a une
femme... Je ne dis pas si c'est bien, mais en tous les cas, c'est comme ça.
J'ai compris. Et c'est une femme à Matignon, Elisabeth Borne, Premier ministre. Vous dites que ce qui vous a attiré vers le journalisme politique, c'est l'image d'une femme dans un train quand vous aviez 12-13 ans.
Ah non, pas de faire de la politique, c'est une femme...
Du journalisme politique.
Du journalisme, tout court. Ah. Non, c'est parce que j'ai vu une femme dans un train qui avait l'air... Qui fumait, qui avait... Dans le couloir, qui avait baissé sa vitre. Et pour moi, c'était l'indépendance. Voilà, moi qui
voyageais. Vous avez raconté ça à Technicart. J'ai trouvé ça très très beau, ce passage. Je dis, je vois une fille sortir du compartiment voisin. Elle était accoudée à une barre en cuivre. Elle fumait. Elle était indépendante. Elle voyageait seule. Elle avait cet air de contentement de soi, de femme qui assumait son existence. Je me suis dit, cette femme est journaliste.
Voilà, sans savoir ce qu'elle faisait, j'ai jamais su.
Et Catherine Ney, un mot du podcast, ça s'appelle Les Inséparables que vous le signez, vous racontez les couples à l'Élysée, Nicolas et Cécilia Sarkozy, Jacques et Bernadette, des couples duo comme le général de Gaulle et Pompidou, j'en parle parce que je vole un peu au secours de la victoire, 10 000 écoutes par épisode déjà, et on l'annonce ce matin, on pourra entendre ces récits pendant les vacances de Noël, les samedis 24 et 31 décembre à l'antenne d'Europe 1. C'était mon petit moment corporate, merci beaucoup.
Merci
Catherine
Philippe.
Ney, je rappelle, le grand théâtre du pouvoir, c'est chez Bouquin, la collection qui porte bien son nom puisque c'est 4 livres résumés. Et puis, tu le sais bien, le temps passe, c'était vos souvenirs, mémoires, souvenirs, tome 2. Merci d'avoir été avec nous direct sur Europe. Bon week-end.
Merci
Philippe. Nous on se retrouve, merci à vous. On se retrouve dans un instant, comme tous les vendredis, l'actu et les coulisses du sport business avec Sacha Nokovic de l'équipe et Bruno Donnet, évidemment, qui arrive pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Dans un instant, on retrouve Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous nous parlerez de la révolution Twitch attendue pour la Coupe du Monde, un documentaire sur les liens entre les Bleus et l'Elysée et du fait que vous ne croyez pas du tout à l'arrivée du sport en direct sur Netflix et vous allez nous dire pourquoi. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous examinez ici l'anatomie médiatique et cette semaine, il vous a semblé que l'actualité avait les idées très bizarrement placées.
Oui, alors
Alors, je ne sais pas si l'on doit la tonalité générale à cette curieuse information révélée mercredi par le magazine de la santé de France 5.
On s'est rendu compte qu'en 2018, malheureusement, la concentration en spermatozoïdes a tout simplement été divisée par deux.
Mais cette semaine, l'actualité m'a semblé très en dessous de la ceinture et en très grande délicatesse avec ses parties intimes.
Et on se demande jusqu'où va aller cette baisse de spermatozoïdes.
Et pourtant, face à cette débandade fermement diagnostiquée, les héros de l'info avaient pris le taureau par les cornes. Dès lundi, voyant le panorama de l'actu se ramollir dans de telles proportions, le 13h de TF1 a dégainé un reportage sur la pêche au calamar à l'aide d'un procédé un peu particulier.
Depuis toujours ici, il se pêche à l'aide d'une turlute.
La pêche à la turlute, une technique délicate qui réclame expérience et doigté.
Avec ma main, je fais une animation pour faire claquer les turlutes entre les deux billes.
Voilà, faut faire claquer les turlutes qui sont de gros hameçons, comme vous le savez Philippe, entre les billes. Le hic, c'est que malgré ce reportage parfaitement indiqué, l'actualité est restée plutôt molle. À quelques jours du début de la Coupe du Monde de foot, Hugo Lloris a expliqué, par exemple, qu'il ne porterait pas le brassard arc-en-ciel pour soutenir les personnes LGBT persécutées au Qatar.
Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, mais j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar.
Seulement voilà, sur RTL, Philippe Cavrivière y a vu une relation de cause à effet prétendument imputable à une petite particularité anatomique du capitaine des Bleus.
Il a une petite voix fluette et pas trop de baloche, donc attention, on ne juge pas. On peut comprendre qu'Hugo Lloris ait été traumatisé.
Voilà, pas trop de baloche, une actualité très en dessous de la ceinture, je vous avais prévenu. Bon, pendant ce temps-là, en Ukraine, Poutine a continué de vouloir montrer au monde entier qu'il en avait une bien plus grosse que celle de Zelensky. Je parle de sa force de frappe, bien sûr, complexe, parfaitement résumée par Gilles Boulot, mardi, sur TF1.
La vengeance de Vladimir Poutine après le retrait humiliant de l'armée russe du sud de l'Ukraine. Une centaine de missiles se sont abattus aujourd'hui sur tout le pays.
Toutefois, après les spermatozoïdes, les baloches et les ogives, le gros dossier de l'actualité médiatique cette semaine se situait essentiellement au niveau du baba.
Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale. Une émission spéciale sur ce qu'on appelle l'affaire Boyard.
Cyril Hanouna, nombril de l'attention médiatique après son altercation inédite, avec le député de la France Insoumise Louis Boyard, a bénéficié du soutien inconditionnel des membres de son équipe qui, à l'image d'Éric Nolot, ont voulu isoler le député en affirmant qu'il n'était pas soutenu par les ténors de son parti.
L'état-major de France Insoumise n'ose pas aller contre Louis Boyard. Il se contente d'être silencieux. Mélenchon ne dit rien, Garrido ne dit rien, Corbière ne dit rien, ils savent très bien qu'il a déconné.
Problème, c'était tendre les verges pour se faire battre, car hier soir, après quelques jours de silence, Jean-Luc Mélenchon a apporté une réponse on ne peut plus ferme à Cyril Hanouna.
Vous savez pourquoi je suis venu à vos émissions, monsieur Hanouna? Parce qu'on m'avait dit, ce monsieur, il vous donne la possibilité de parler et de parler à tout le monde. Voilà pourquoi j'y suis venu.
Il a tenu à tendre le cou au procès en connivence avec l'animateur que certains ont voulu lui faire un peu vite.
Et si vous vous figurez qu'on vient vous voir par sympathie pour vous, je préfère vous dire que vous vous trompez.
Au point que ce matin, on ne sait plus très bien qui l'a eu dans le baba.
Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains.
Enfin, difficile de conclure cette semaine scabreuse et largement située sous la ceinture sans évoquer ici la toute nouvelle mascotte des prochains Jeux Olympiques de Paris. Elle a été dévoilée lundi en grande pompe sur le plateau du 13h de France 2 par Tony Estanguet.
On a voulu que cette mascotte, ce soit effectivement ce symbole du bonnet phrygien. Parce que c'est un symbole de liberté.
Baptisée Frige, cette mascotte nous a tous fait penser à la même chose. Yann Barthès en est d'ailleurs beaucoup amusé sur le plateau de son émission Quotidien.
On a une pensée pour ces deux personnes déguisées en clitoris sous acide.
Eh oui, la mascotte de Paris 2024 ressemble à un clitoris. Les journalistes belges de RTL Télévision qui ont eux aussi commenté l'événement ont du reste eu beaucoup de mal à s'en remettre.
Bonjour Sabrina Jacob.
Bonjour Olivier.
Qu'est-ce que vous avez pensé?
On va parler météo.
Ça se dégrade cet après-midi, côté temps.
Pas besoin de bonnet.
Voilà, et quant à vous, Philippe, pendant que dans votre émission on diffusait une page de pub, eh bien vous vous êtes vous aussi intéressé à la nouvelle, à votre manière.
Regarde, On dirait une vulve.
Ouais, vous y avez vu une vulve, ça c'est votre côté toujours plus.
Pas du tout. C'était
et
la une
croyant,
de
pas du tout. Vous êtes menteur. Et croyant probablement qu'on ne vous entendait pas, vous nous avez même régalé de ce commentaire absolument impérissable.
Chacun a le vagin comme il a. En plus, tu le montes pas à tout le monde, on est chez les dingos.
Eh oui, méfiez-vous Philippe, hein. Sachez qu'on vous écoute partout, tout le temps. Parce que c'est pas parce que l'actualité se concentre parfois très en dessous de la ceinture qu'elle nous rend collectivement sourd.
Quelle horreur, mais quelle horreur. Superbe. On est écouté et sonné même pendant les pubs. Alors je vais le dire, la vulve, on dirait quelque chose d'inconscient, c'est la très très belle une de Paris Match sur les femmes iraniennes.
C'est vrai.
Regardez cette femme et c'est absolument prodigieux, le match est en kiosque. Et quant à l'histoire du vagin, c'est quelque chose qui m'a totalement hérissé. On a fait un sujet sur les influenceurs. C'était une influenceuse qui vendait des opérations intimes et pour que des jeunes filles fassent cette opération, elle disait regarde, moi j'ai le vagin d'une fille de 13 ans et je maintiens, on est chez les dingos.
Vous êtes bien sorti de l'affaire.
Non mais c'est la vérité. Vous n'en faites pas partie des dingos, Bruno Donnet. Merci d'avoir été là. Comme chaque vendredi, c'est Sport Média avec Sacha Nokovic. Votre programme aujourd'hui, Sacha.
La Coupe du Monde au Qatar, bah, dimanche avec une vraie nouveauté média qui pourrait tout changer et un documentaire dimanche soir aussi sur les liens entre l'équipe de France et l'Elysée.
Mais pour commencer, vous avez lu un peu partout ces derniers jours que Netflix allait se lancer dans la diffusion du sport et ça vous a agacé.
Bah oui, j'ai lu cet article du Washington Post qu'on a repris un peu partout cette semaine qui annonçait que Netflix réfléchissait sérieusement à proposer du sport en direct. La plateforme aurait misé d'abord sur les droits du tennis, notamment en France, avant de jeter l'éponge. Déjà, ça, ça veut tout dire. Aujourd'hui, le tennis, c'est sur quoi? C'est sur Eurosport jusqu'à fin 2023. Eurosport n'en veut plus vraiment. Il n'y a pas grand monde qui est intéressé par ces droits. Ça veut dire pas de concurrence et donc des droits très peu chers. Netflix, s'il avait voulu, aurait eu les droits sans souci. Idem, Netflix, joli, aurait voulu s'offrir la Ligue mondiale de surf. Alors apparemment trop cher, là encore pour elle, mais le surf, bah, je suis désolé, c'était gratuit sur Facebook pendant des années, personne n'en veut, ça vaut quasiment zéro aujourd'hui comme droit, donc on comprend pas. Quoi.
Et du coup c'est fini, c'est quoi? C'est un bluff de Netflix?
Bah, sur le marché des droits télé, on appelle ça payer pour voir, se renseigner sur le marché, avoir des petites infos sur le concurrent, et puis un petit coup de promo. Hein, la preuve, on en a parlé partout cette semaine, on en parle encore ce matin dans Culture Média, mais la réalité c'est que dans le monde des géants du numérique, la diffusion du sport c'est une économie compliquée. Vous en avez parlé cette semaine du licenciement de 11 000 personnes par Meta, c'est le nouveau nom de Facebook. Et bien parmi les licenciés, il y a quasiment tout le staff sport qui est passé, y compris le boss Peter Hutton. En fait, Facebook, c'est un retour en arrière sur le sport c'est fini. Twitter avait tenté aussi, il y a quelques années, d'y mettre un pied, ça a duré une saison, voilà, trop cher, pas rentable, finito. Apple, hein, qui est bien plus puissant que Netflix, mais il va, mais a pas feutré vraiment avec des petits droits et une grande prudence. En fait, le seul géant du numérique qui fonce sur le sport, y compris chez nous, avec la Ligue 1, hein, et Roland-Garros, on le sait, c'est Amazon, avec un objectif, faire venir des clients sur Prime pour vendre et sur son site de e-commerce. Netflix, hein, il n'y a pas de brosse à dents ou de casserole à vendre sur sa plateforme, c'est juste des séries, des films, des programmes, c'est pas du tout la même économie en fait.
Mais c'est seulement une question d'argent pour Netflix?
Bah, pas seulement en fait. Lorsque Netflix investit plusieurs millions en effet sur des séries comme The Crown ou Stranger Things, elle s'assure de les conserver à vie dans son catalogue, bah, des droits sportifs, vous les payez plus cher, mais sur des cycles de 3 ou 4 ans avant de possiblement les perdre. En fait, c'est ce qui a d'ailleurs toujours effrayé Netflix, donc c'est très surprenant. Et selon moi, je vous le dis, ne vous attendez pas à lancer un match de foot ou même de tennis avec cette petite musique.
La Coupe du Monde au Qatar, dont Europe 1 et Radio Officielle, je le rappelle, débute ce dimanche, n'apprend rien à personne. Elle est inédite en bien des points, Sacha. D'abord, elle a lieu en automne, pour la première fois dans le monde arabe, et elle n'a jamais été autant décriée avant même d'avoir commencé. Mais vous avez remarqué également une vraie tendance média qui pourrait casser les codes.
Ouais, cette nouveauté, elle s'appelle Twitch. Hein. On en parle régulièrement dans Culture Média. Vous savez, c'est cette plateforme qui permet à n'importe qui, un anonyme, un média, une marque, une célébrité, de diffuser un flux vidéo en direct et d'avoir à côté des réactions et des questions de sa communauté. Et bien, pour la première fois, pendant une Coupe du Monde, un sélectionneur, en l'occurrence celui de l'Espagne, Luis Enrique, a annoncé cette semaine qu'il lançait sa propre chaîne Twitch pour dialoguer avec les fans pendant la compétition. Et son explication est toute simple.
Je pense que ça peut être très intéressant. L'idée est d'établir une relation directe avec vous, les supporters. Une parole sans filtre, plus spontanée et surtout plus naturelle.
Luis Enrique en personne, mais il va tout de même continuer à parler aux médias traditionnels.
Bah oui, il a des obligations, notamment avant et après les matchs. Il peut heureusement pas y déroger, ça c'est le règlement FIFA, le règlement de la Coupe du Monde. Mais ce sera intéressant quand même de voir s'il sera plus libre le soir dans sa chambre d'hôtel tranquillement à dialoguer avec les supporters qu'en conférence de presse face aux méchants journalistes qui posent les questions qui fâchent. Donc l'autre point intéressant, c'est quand même que la diffusion en direct va empêcher le service communication de la Fédération espagnole de football de contrôler ce qu'il dit, contrairement à un post Instagram, Facebook ou Snapchat où on peut revoir la vidéo, la couper et la contrôler. Donc ça, c'est une vraie nouveauté qui va forcément bousculer les habitudes en Espagne.
Et vous parliez de tendance, est-ce que ça va rester en Espagne ou est-ce que ça va donner des idées à d'autres?
Bah pour le moment, oui, malheureusement, parce que j'ai quand même posé la question à la Fédération française de football et on m'a répondu que Didier Deschamps n'était même pas sur les réseaux sociaux et ne comptait pas du tout s'y mettre dans l'immédiat. Donc voilà, Dédé en mode influenceur dans sa chambre à Doha, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, en revanche, il y a un grand média de sport français qui pourrait annoncer une nouveauté sur Twitch pour ce mondial ces prochains jours. Là encore, ce serait une première, mais pour l'instant, c'est top secret, je peux pas trop en parler.
Dimanche, France 5 diffuse en prime time un documentaire sur les liens entre l'équipe de France de football et les présidents de la 5e République. Et vous l'avez déjà vu ce doc.
Oui, ça s'appelle Les Bleus et l'Elysée. Ça raconte les liens intimes ou distants entre l'Elysée et l'équipe de France, avec des images d'archives bien sûr, mais surtout beaucoup de témoignages de journalistes sportifs, politiques, mais aussi la participation d'un ancien président, François Hollande, et de l'actuel Emmanuel Macron.
Pas Nicolas Sarkozy.
Non, a priori, il a moins envie de parler de football en ce moment. C'est ce que m'a dit le réalisateur du film, Mohamed Bouafsi. Il faut dire que c'est pas la France qui gagne sous Sarkozy. C'est l'Euro 2008, ça c'est cata. Et c'est surtout Nice-Na 2010, la grève des joueurs.
Ouais, exactement, ouais,
donc c'est compliqué. Mais même quand la France gagne, comme en 2018, il y a quand même des polémiques. Souvenez-vous, lorsque les Bleus étaient revenus en France, descente des Champs-Élysées ultra rapide, express, les supporters ont à peine eu le temps de voir les Bleus. Tout ça pour arriver à l'Élysée pour l'ouverture du journal de 20h et permettre au président d'avoir la belle image avec les champions du monde. Et bien dans le film, Emmanuel Macron répond et plaide non coupable.
Je sais, on me l'a mis sur le dos, ouais. C'est totalement faux. Là, je vous le dis les yeux dans les yeux. Ça m'a agacé, ouais, que ça se passe comme ça. Après qu'on me le mette sur le dos, je ne veux pas vous le cacher. Alors, était-ce des contraintes de sécurité? Est-ce qu'il y a eu des ordres, des contre-ordres qui ont été donnés à d'autres niveaux? En tout cas, ce n'est pas ma pomme, ça je peux vous le dire très clairement.
Voilà, donc 2022, on espère aussi une victoire évidemment, mais pour moi, qui suis un grand romantique, la vraie victoire, la première, c'est la meilleure, c'est celle de 98, bien sûr.
Mais oui, vous connaissez le proverbe? On n'a jamais deux fois la chance de faire une première impression. Merci beaucoup Sacha.
Merci.
On peut vous lire demain dans l'équipe, et puis Culture Média continue. Après les infos de 10h, notre invité Charles Berling, il sera sur la scène du Théâtre du Rond-Point pour une pièce « Deux amis » écrite pour lui. Il sera avec Stanislas Nordet. Et puis dans les indispensables, on parle du fooding avec Laurent Mariotte. Et puis Bordenave, Sébastien nous présente un livre consacré à un géant de la BD, Franquin. C'est le papa de Gaston Lagaffe, Jean-Luc Lemoine, pour sa session de rattrapage. A tout de suite.
Culture Média sur Europe 1.